Le lendemain, mercredi, M. Rabourdin devait travailler avec le ministre car il faisait l'intérim depuis la maladie du défunt Labillardère. Ces jours-là, les employés étaient fort exacts, les garçons de bureau très empressés, car les jours de signature, tout est en l'air dans les bureaux, et pourquoi, personne ne le sait. Les trois garçons étaient donc à leur poste et se flattaient d'avoir quelques gratifications car le bruit de la nomination de M. Rabourdin s'était répandu la veille par les soins de Delupeau. L'oncle Antoine et l'huissier Laurent se trouvaient en grande tenue, quand, à 8 heures moins un quart, le garçon du secrétariat vint prier Antoine de remettre en secret à M. Dutocq une lettre que le secrétaire général lui avait dit d'aller porter chez le commis principal à 7 heures. « Je ne sais pas comment cela s'est fait, mon vieux, j'ai dormi, que je ne fais que de me réveiller. Il me chanterait une gamme d'enfer s'il savait qu'elle n'est pas à son adresse, au lieu que, comme cela, je lui soutiendrai que je l'ai remise moi-même chez M. Dutocq. Un fameux secret, père Antoine, ne dites rien aux employés, parole ?» Il me renverrait. Je perdrai ma place pour un seul mot, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'il y a donc dedans, dit Antoine. Rien, je l'ai regardé comme ça, tenez. Et il fit bâiller la lettre qui ne laissa voir que du blanc. C'est aujourd'hui le grand jour pour vous, Laurent, dit le garçon du secrétariat. Vous allez avoir un nouveau directeur. Décidément, on fait des économies, on réunit deux divisions en une direction. Gare aux garçons. Oui, 9 employés mis à la retraite, dit Dutocq qui arrivait. Comment savez-vous cela, vous autres ? Antoine présenta la lettre à Dutocq qui dégringola les escaliers et courut au secrétariat après l'avoir ouverte. Depuis le jour de la mort de M. de Labillardère, après avoir bien bavardé, les deux bureaux Rabourdin et Baudoyer avaient fini par reprendre leur physionomie accoutumée et les habitudes du dolce far niente administratif. Cependant, la fin de l'année imprimait dans les bureaux une sorte d'application studieuse, de même qu'elle donne quelque chose de plus onctueusement servile aux portiers. Chacun venait à l'heure, on remarquait plus de monde après 4 heures, car la distribution des gratifications dépend des dernières impressions qu'on laisse de soi dans l'esprit des chefs. La veille, la nouvelle de la réunion des deux divisions, Labillardère et Clergeau, en une direction, sous une dénomination nouvelle, avait agité les deux divisions. On savait le nombre des employés mis à la retraite, mais on ignorait leur nom. On supposait bien que Poiret ne serait pas remplacé, on ferait l'économie de sa place. Le petit Labillardère s'en était allé. De nouveaux surnuméraires arrivaient, et, circonstances effrayantes, ils étaient fils de députés. La nouvelle, jetée la veille dans les bureaux, au moment où les employés partaient, avait imprimé la terreur dans les consciences. Aussi, pendant la demi-heure d'arrivée, y eut-il des causeries autour des poêles. Avant que personne ne fût arrivé, Dutocq vit Delupeau à sa toilette, et sans quitter son rasoir, le secrétaire général lui jeta le coup d'œil du général, intimant un ordre. « Sommes-nous seuls ?» lui dit-il. « Oui, monsieur. » Eh bien, marchez sur Rabourdin, en avant et ferme. Vous devez avoir gardé une copie de son état. Oui. Vous me comprenez, inde irae. Il nous faut un tollé général. Sachez inventer quelque chose pour activer les clameurs. Je puis faire une caricature, mais je n'ai pas 500 francs à donner. Qui la fera ? Bissiou. Il aura 1000 francs et sera sous-chef sous Colville qui s'entendra avec lui. Mais il ne me croira pas. « Voulez-vous me compromettre par hasard ? Allez ou sinon rien, entendez-vous ? Si M. Baudoyer est directeur, il pourrait prêter la somme. Oui, il le sera. Laissez-moi, dépêchez-vous et n'ayez pas l'air de m'avoir vu. Descendez par le petit escalier. » Pendant que Dutocq revenait au bureau, le cœur palpitant de joie, en se demandant par quels moyens il exciterait la rumeur contre son chef sans trop se compromettre, Bissiou était entré chez les Rabourdin pour leur dire un petit bonjour. Croyant avoir perdu, le mystificateur trouva plaisant de se poser comme ayant gagné. Bissiou imitant la voix de Félion. « Messieurs, je vous salue et vous dépose un bonjour collectif. J'indique dimanche prochain pour un dîner au Rocher de Cancale, mais une question grave se présente. Les employés supprimés en sont-ils ? » Poiret. « Même ceux qui prennent leur retraite. » Bissiou. « Ça m'est égal, ce n'est pas moi qui paye. » Stupéfaction générale. Baudoyer est nommé, je voudrais déjà l'entendre appelant Laurent. Il copie Baudoyer. Laurent serrait ma air avec ma discipline. Tous pouvent de rire. Ride à Boyeurdois, Colville a raison avec ses anagrammes, car vous savez l'anagramme de Xavier Rabourdin, chef de bureau. C'est d'abord Réva Bureau, EU fin riche. Si je m'appelais Charles X, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, je tremblerais de voir le destin que me prophétise mon anagramme s'accomplir ainsi. Tuilier. « Ah ça, vous voulez rire ?» Bissiou lui riant au nez. « Riolez, riolez !»« Il est joli celui-là, papa Tuilier, car vous n'êtes pas beau. » Rabourdin donne sa démission de rage de savoir Baudoyer directeur. Vimeux entrant. Quelle farce! Antoine, à qui je rendais 30 ou 40 francs, m'a dit que monsieur et madame Rabourdin avaient été reçus hier à la soirée particulière du ministre et y étaient restés jusqu'à 1:15. Son Excellence a reconduit madame Rabourdin jusque sur l'escalier, il paraît qu'elle était divinement mise. Enfin, il est certainement directeur. Riffet, l'expéditionnaire du personnel, a passé la nuit pour achever plus promptement le travail. Ce n'est plus un mystère. Monsieur Clergeot a sa retraite, après 30 ans de service, ce n'est pas une disgrâce. Monsieur Cochin, qui est riche, Bissieu, selon Colville, il fait cochenille. Vimeux, mais il est dans la cochenille car il est associé à la maison Matifat, rue des Lombards. Eh bien, il a sa retraite. Poiret a sa retraite, tous deux, ils ne sont pas remplacés. Voilà le positif, le reste n'est pas connu. La nomination de monsieur Rabourdin vient ce matin, on craint des intrigues. Bissieu, quelles intrigues? Fleury. Baudoyer parbleu, le parti prêtre l'appuie, et voilà un nouvel article du journal libéral, il n'a que 2 lignes, mais il est drôle. Il lit. Quelques personnes parlaient hier au foyer des Italiens de la rentrée de M. Chateaubriand au ministère, et se fondaient sur le choix que l'on a fait de M. Rabourdin, le protégé des amis du noble vicomte, pour remplir la place primitivement destinée à M. Baudoyer. Le parti prêtre n'aura pu reculer que devant une transaction avec le grand écrivain. Canaille. Du Toc, entrant après avoir entendu. « Qui, canaille? Rabourdin? Vous savez donc la nouvelle ?» Fleury, roulant des yeux féroces. « Rabourdin, une canaille? Êtes-vous fou, Du Toc, et voulez-vous une balle pour vous mettre du plomb dans la cervelle ?» Du Toc. « Je n'ai rien dit contre M. Rabourdin, seulement on vient de me confier, sous le secret, dans la cour, qu'il avait dénoncé beaucoup d'employés, donné des notes, enfin que sa faveur avait pour cause un travail sur les ministères où chacun de nous est enfoncé. » Félion d'une voix forte. « Monsieur Rabourdin est incapable. » Bissieu. « C'est du propre, dites donc, Du Toc. » Ils se disent un mot à l'oreille et sortent dans le corridor. Bissieu. « Qu'est-ce qu'il arrive donc ?» Du Toc. « Vous souvenez-vous de la caricature ?» Bissieu. « Oui, eh bien. » Du Toc. « Faites-la, vous êtes sous-chef et vous aurez une fameuse gratification. Voyez-vous, mon cher, il y a zizanie dans les régions supérieures. » Le ministère est engagé envers Rabourdin, mais s'il ne nomme pas Baudoyer, il se brouille avec le clergé. Vous ne savez pas? Le roi, le dauphin et la dauphine, la grande aumônerie, enfin la cour veut Baudoyer, le ministre veut Rabourdin. Bissieu. Bon. Du Toc. Pour pouvoir se rapprocher, car le ministre a vu la nécessité de céder, il veut tuer la difficulté. Il faut une cause pour se défaire de Rabourdin. On a donc déniché un ancien travail fait par lui sur les administrations pour les épurer, et il en circule quelque chose. Du moins, voilà comment j'essaie de m'expliquer la chose. Faites le dessein, vous entrez dans le jeu des sommités, vous servez à la fois le ministère, la cour, tout le monde, et vous êtes nommé. Comprenez-vous? Bissieu. Je ne comprends pas comment vous pouvez savoir tout cela, ou bien vous l'inventez. Du Toc. Voulez-vous que je vous montre votre article? Bissieu. Oui. Du Toc. Eh bien, venez chez moi, car je veux remettre ce travail en des mains sûres. Bissieu. Allez-y tout seul. Il rentre dans le bureau des Rabourdin. Il n'est question que de ce que vous a dit Du Toc, parole d'honneur. Monsieur Rabourdin aurait donné des notes peu flatteuses sur les employés à réformer. Le secret de son élévation est là. Nous vivons dans un temps où rien n'étonne. Il se drape comme Talma. Vous avez vu tomber les plus illustres têtes, et vous vous étonnez, insensé que vous êtes, de trouver une cause de ce genre à la faveur d'un homme. Monsieur Baudoyer est trop bête pour réussir par des moyens semblables. Agréez mon compliment, messieurs, vous êtes sous un illustre chef. Il sort. Poiret. Je quitterai le ministère sans avoir jamais pu comprendre une seule phrase de ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ses têtes tombées? Fleury. Parbleu, les 4 sergents de La Rochelle, Berton, Ney, Carton, les frères Fauché, tous les massacres. Félion. Il avance légèrement des choses hasardées. Fleury. Dites donc qu'il ment, qu'il blague, et que dans sa gueule le vrai prend la tournure du vert-de-gris. Félion. Vos paroles sont hors la loi de la politesse et des égards que l'on se doit entre collègues. Vimeux. Il me semble que si ce qu'il dit est faux, on nomme cela des calomnies, des diffamations, et qu'un diffamateur mérite des coups de cravache. Fleury s'animant. Et si les bureaux sont un endroit public, cela va droit en police correctionnelle. Félion, voulant éviter une querelle, essaie de détourner la conversation. Messieurs, du calme. Je travaille à un nouveau petit traité sur la morale et j'en suis à l'âme. Fleury l'interrompant. Qu'en dites-vous, monsieur Félion? Félion lisant. Demande. Qu'est-ce que l'âme de l'homme? Réponse. C'est une substance spirituelle qui pense et qui raisonne. Thuillier. Une substance spirituelle, c'est comme si on disait un moellon immatériel. Poiret. Laissez donc dire. Félion, reprenant. Demande. D'où vient l'âme? Réponse. Elle vient de Dieu qui l'a créée, d'une nature simple et indivisible, et dont par conséquent on ne peut concevoir la destructibilité. Et il a dit, Poiret stupéfait, Dieu ? Félion. Oui, monsieur, la tradition est là. Fleury à Poiret. N'interrompez donc pas vous-même. Félion, reprenant. Et il a dit qu'il l'avait créée immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne mourra jamais. Demande. À quoi sert l'âme ? Réponse. À comprendre, vouloir et se souvenir, ce qui constitue l'entendement, la volonté, la mémoire. Demande. À quoi sert l'entendement ? Réponse. À connaître. C'est l'œil de l'âme. Fleury. Et l'âme est l'œil de quoi ? Félion, continuant, demande. Que doit connaître l'entendement ? Réponse. La vérité. Demande. Pourquoi l'homme a-t-il une volonté ? Réponse. Pour aimer le bien et haïr le mal. Demande. Qu'est-ce que le bien ? Réponse. Ce qui rend heureux. Vimeux. Et vous écrivez cela pour des demoiselles ? Félion. Oui, continuant. Demande. Combien y a-t-il de sortes de biens ? Fleury. C'est prodigieusement leste. Félion, indigné. Ô monsieur ! Se calmant. Voici d'ailleurs la réponse. J'en suis là. Il lit. Réponse. Il y a deux sortes de biens, le bien éternel et le bien temporel. Poiret. Il fait une mine de mépris. Et cela se vendra beaucoup ? Félion. J'ose l'espérer, il faut une grande contention d'esprit pour établir le système des demandes et des réponses. Voilà pourquoi je vous priais de me laisser penser, car les réponses... Thuillier interrompant. Au reste, les réponses pourront se vendre à part. Poiret. Est-ce un calembour ? Thuillier. Oui, on en fera de la salade, de réponses. Félion. J'ai eu le tort grave de vous interrompre. Il se plonge la tête dans ses cartons. Mais, en lui-même, il ne pense plus à M. Rabourdin. En ce moment, il se passait entre Delupeau et le ministre une scène qui décida du sort de Rabourdin. Avant le déjeuner, le secrétaire général était venu trouver l'Excellence dans son cabinet en s'assurant que Labrière ne pouvait rien entendre. « Votre Excellence ne joue pas franchement avec moi. Nous voilà brouillés, pensa le ministre, parce que sa maîtresse m'a fait des coquetteries hier. « Je vous croyais moins enfant, mon cher ami, » reprit-il à haute voix. « Ami, » reprit le secrétaire général, « je vais bien le savoir. » Le ministre regarda fièrement Delupeau. Nous sommes entre nous et nous pouvons nous expliquer. Le député de l'arrondissement où se trouve ma terre Delupeau, c'est donc bien décidément une terre, dit en riant le ministre pour cacher sa surprise. Augmenté de 200 000 francs d'acquisition, reprit négligemment Delupeau, vous connaissiez la démission de ce député depuis 10 jours et vous ne m'avez point prévenu. Vous ne le deviez pas, mais vous saviez très bien que je désire m'asseoir en plein centre. Avez-vous songé que je puis me rejeter dans la doctrine qui vous dévorera, vous et la monarchie, si l'on continue à laisser ce parti recruter des hommes d'un certain talent méconnu ? Savez-vous qu'il y a dans une nation plus de 50 ou 60 têtes dangereuses, et où l'esprit soit en rapport avec l'ambition ? Savoir gouverner, c'est combattre ces têtes-là pour les couper ou pour les acheter. Je ne sais pas si j'ai du talent, mais j'ai de l'ambition, et vous commettez la faute de ne pas vous entendre avec un homme qui ne vous veut que du bien. Le sacre a ébloui pour un moment, mais après. Après, la guerre des mots et des discussions recommencera, s'envenimera. Eh bien, pour ce qui vous concerne, ne me trouvez pas dans le centre-gauche, croyez-moi. Malgré les manœuvres de votre préfet, à qui sans doute il est parvenu des instructions confidentielles contre moi, j'aurai la majorité. Le moment est venu de nous bien comprendre. Après un petit coup de jarnac, on devient quelquefois bons amis. Je serai nommé comte et l'on ne refusera pas à mes services le grand cordon de la Légion. Mais je tiens moins à ces deux points qu'à une chose où votre intérêt seul se trouve engagé. Vous n'avez pas encore nommé Rabourdin, j'ai eu des nouvelles ce matin, vous satisferez bien du monde en lui préférant Baudoyer. Nommé Baudoyer, s'écria le ministre, vous le connaissez. Oui, dit Delupeau, mais quand son incapacité sera prouvée, vous le destituerez en priant ses protecteurs de l'employer chez eux. Vous aurez ainsi pour vos amis une direction importante à donner, ce qui facilitera quelques transactions pour vous défaire de quelque ambitieux. Je lui ai promis. Oui, mais je ne vous demande pas de changer aujourd'hui même. Je sais le danger de dire oui et non dans la même journée. Remettez les nominations, vous pourrez les signer après-demain. Eh bien, après-demain, vous reconnaîtrez qu'il est impossible de conserver à Bourdin, de qui, d'ailleurs, vous aurez reçu une belle et bonne démission.
Sa démission?
Oui. Pourquoi? Il est l'homme d'un pouvoir inconnu pour lequel il a fait l'espionnage en grand dans tous les ministères. Et la chose a été découverte par une inadvertance. On en parle, les employés sont furieux. De grâce, ne travaillez pas aujourd'hui avec lui, laissez-moi trouver un biais pour vous en dispenser. Allez chez le roi, je suis sûr que vous trouverez des personnes contentes de votre concession à propos de Baudoyer, vous obtiendrez quelque chose en échange. Puis vous serez bien fort plus tard en destituant ce sot, puisqu'on vous l'aura pour ainsi dire imposé. Qui vous a fait changer ainsi sur le compte de Rabourdin? Aideriez-vous, monsieur de Chateaubriand, à faire un article contre le ministère? Eh bien, voici comment Rabourdin me traite dans son état, dit-il en donnant sa note au ministre. Il organise un gouvernement tout entier, sans doute au profit d'une société que nous ne connaissons pas. Je vais rester son ami pour le surveiller, je crois que je rendrai quelque grand service qui me mènera à la pairie, car la pairie est le seul objet de mes désirs. Sachez de bien, je ne veux ni ministère, ni quoi que ce soit qui puisse vous contrarier. Je vise à la pairie qui me permettra d'épouser la fille de quelques maisons de banque avec 200 000 livres de rente. Ainsi, laissez-moi vous rendre quelques grands services qui fassent dire au roi que j'ai sauvé le trône. Il y a longtemps que je le dis, le libéralisme ne nous livrera plus de batailles rangées. Il a renoncé aux conspirations, au carbonarisme, aux prises d'armes. Il mine en dessous et se prépare à un complet « ôte-toi de là que je m'y mette ». Croyez-vous que je me sois fait le courtisan de la femme d'un Rabourdin pour mon plaisir? Non, j'avais des renseignements. Ainsi, deux choses aujourd'hui. L'ajournement des nominations et votre coopération sincère à mon élection. Vous verrez si, vers la fin de la session, je ne vous aurai pas largement payé ma dette. Pour toute réponse, le ministre prit le travail du personnel et le tendit à Deslupeaux. « Je vais faire dire à Rabourdin, reprit Deslupeaux, que vous remettez le travail à samedi. » Le ministre consentit par un signe de tête. Le garçon du secrétariat traversa bientôt les cours et vint chez Rabourdin pour le prévenir que le travail était remis à samedi, jour où la chambre ne s'occupait que de pétitions et où le ministre avait toute sa journée. En ce moment même, Saillard glissait sa phrase à la femme du ministre qui lui répondit avec dignité qu'elle ne se mêlait point d'affaires d'État et que d'ailleurs elle avait entendu dire que M. Rabourdin était nommé. Saillard, épouvanté, monta chez Baudoyer et trouva Dutoc, Godard et Bissou dans un état d'exaspération difficile à décrire, car il parcourait la terrible minute du travail de Rabourdin sur les employés. Bissou, en montrant du doigt un passage. « Vous voilà, père Saillard. » Saillard, la caisse est à supprimer dans tous les ministères qui doivent avoir leur compte courant au trésor. Saillard est riche et n'a nul besoin de pension. Voulez-vous voir votre gendre? Il feuillette. Voilà, Baudoyer, complètement incapable, remercié sans pension, il est riche. Et l'ami Godard? Il feuillette. Godard a renvoyé une pension du tiers de son traitement. Enfin, nous y sommes tous. Moi, je suis un artiste à faire employer par la liste civile à l'opéra, au menu plaisir, au muséum. Beaucoup de capacité, peu de tenue, incapable d'application, esprit remuant. Ah, je t'en donnerai de l'artiste. Saillard, supprimer les caissiers? C'est un monstre! Bissou, que dit-il de notre mystérieux des rois? Il feuillette et lit. Des rois, homme dangereux en ce qu'il est inébranlable en des principes contraires à tout pouvoir monarchique. Fils de conventionnel, il admire la convention, il peut devenir un pernicieux publiciste. Baudoyer, la police n'est pas si habile. Godard, mais je vais au secrétariat général porter une plainte en règle. Il faut nous retirer tous en masse si un pareil homme est nommé. Dutoc, écoutez-moi messieurs de la prudence. Si vous vous souleviez d'abord, nous serions accusés de vengeance et d'intérêt personnel. Non, laissez courir le bruit tout doucement. Quand l'administration entière sera soulevée, vos démarches auront l'assentiment général. Bissou. Dutoc est dans les principes du grand air inventé par le sublime Rossini pour Basilio et qui prouve que le grand compositeur est un homme politique. Ceci me semble juste et convenable. Je compte mettre ma carte chez M. Rabourdin demain matin et je vais faire graver Bissou, puis comme titre, au-dessous, peu de tenue, incapable d'application, esprit remuant. Godard, bonne idée, messieurs. Faisons faire nos cartes et que le Rabourdin les ait toutes demain matin. Baudoyer, Monsieur Bissou, chargez-vous de ce petit détail et faites détruire les planches après qu'on aura tiré une seule épreuve. Dutoc, prenant à part Bissou. Eh bien, voulez-vous dessiner la charge maintenant? Bissou. Je comprends, mon cher, que vous êtes dans le secret depuis 10 jours. Il le regarde dans le blanc des yeux. Serais-je sous-chef ? Du toc. Ma parole d'honneur et 1 000 francs de gratification comme je vous l'ai dit. Vous ne savez pas quel service vous rendez à des gens puissants. Bissou. Vous les connaissez ? Du toc. Oui. Bissou. Eh bien, je veux leur parler. Du toc sèchement. Faites la charge ou ne la faites pas, vous serez sous-chef ou vous ne le serez pas. Bissou. Eh bien, voyons les 1 000 francs. Du toc. Je vous les donnerai contre le dessein. Bissou. En avant. La charge courra demain dans les bureaux. Allons donc embêter les rabourdins. Parlant à Saillard, à Godard et à Baudoyer qui causent entre eux à voix basse. Nous allons travailler les voisins. Il sort avec Dutoc et arrive au bureau rabourdin. À son aspect fleuri, Tuilier, Vimeux s'anime. Eh bien, qu'avez-vous, messieurs? Ce que je vous ai dit est si vrai que vous pouvez aller voir les preuves de la plus infâme des délations chez le vertueux, l'honnête, l'estimable, probe et pieux Baudoyer, qui certes est un incapable, lui, du moins de faire un pareil métier. Votre chef a inventé quelques guillotines pour les employés, c'est sûr, allez voir. Suivez le monde, on ne paie pas si l'on est mécontent, vous jouirez de votre malheur, gratis. Aussi, les nominations sont-elles remises. Les bureaux sont en rumeur et Rabourdin vient d'être prévenu que le ministre ne travaillerait pas avec lui aujourd'hui. Et allez donc. Félion et Poiré demeurent seuls. Le premier aimait trop Rabourdin pour aller chercher une conviction qui pouvait nuire à un homme qu'il ne voulait pas juger. Le second n'avait plus que 5 jours à rester au bureau. En ce moment, Sébastien descendit pour venir chercher ce qui devait être compris dans les pièces assignées. Il fut assez étonné, sans en rien témoigner, de trouver le bureau désert. Félion. Mon jeune ami, il se lève, Carrare. Savez-vous ce qui se passe, quel bruit court sur Monsieur Rabourdin, que vous aimez, et il baisse la voix et s'approche de l'oreille de Sébastien, que j'aime autant que je l'estime. On dit qu'il a commis l'imprudence de laisser traîner un travail sur les employés. À ces mots, Félion s'arrête, il est obligé de soutenir dans ses bras nerveux le jeune Sébastien qui devient pâle comme une rose blanche et défaille sur une chaise. Une clé dans le dos. Monsieur Poiré, avez-vous une clé ?
Poiré, j'ai toujours celle de mon domicile.
Le vieux Poiré jeune insinue sa clé dans le dos de Sébastien à qui Félion fait boire un verre d'eau froide. Le pauvre enfant n'ouvre les yeux que pour verser un torrent de larmes. Il va se mettre la tête sur le bureau de Félion en s'y renversant le corps abandonné comme si la foudre l'avait atteint, et ses sanglots sont si pénétrants, si vrais, si abondants, que pour la première fois de sa vie, Poiré s'émeut de la douleur d'autrui. Félion, grossissant sa voix.
« Allons, allons, mon jeune ami, du courage. Dans les grandes circonstances, il en faut, vous êtes un homme, qu'y a-t-il? En quoi ceci peut-il vous émouvoir si démesurément ?»
Sébastien, à travers ses sanglots. C'est moi qui ai perdu Monsieur Rabourdin. J'ai laissé l'état que j'avais copié. J'ai tué mon bienfaiteur. J'en mourrai. Un si grand homme. Un homme qui eût été ministre.
Poiré en se mouchant. C'est donc vrai qu'il a fait les rapports ?
Sébastien, à travers ses sanglots. Mais c'était pour... Allons, je vais dire ses secrets maintenant. Ah, le misérable Dutoc, c'est lui qui l'a volé. Et les pleurs, les sanglots recommencèrent si bien que de son cabinet, Rabourdin entendit les larmes, distingua la voix et monta. Le chef trouva Sébastien presque évanoui, comme un Christ entre les bras de Félion et de Poiré, qui singeait grotesquement la pose des deux maris et dont les figures étaient crispées par l'attendrissement.
Rabourdin. Qu'y a-t-il, messieurs ? Sébastien se dresse sur ses pieds et tombe sur ses genoux devant Rabourdin.
Sébastien. Je vous ai perdu, monsieur. L'état du toc le montre, il l'a sans doute surpris.
Rabourdin, calme.
Je le savais. Il relève Sébastien et l'emmène. Vous êtes un enfant, mon ami. Il s'adresse à Félion.
Où sont ces messieurs ?
Félion.
Monsieur, ils sont allés voir dans le cabinet de Monsieur Baudoyer un état que l'on dit.
Rabourdin. Assez. Il sort en tenant Sébastien. Poiré et Félion se regardent en proie à une vive surprise et ne savent quelles idées se communiquer.
Poiré à Félion.
Monsieur Rabourdin ?
Félion à Poiré.
Monsieur Rabourdin ?
Poiré.
Par exemple, Monsieur Rabourdin ?
Félion.
Avez-vous vu comme il était néanmoins calme et digne ?
Poiré d'un air finaud qui ressemble à une grimace. Il y aurait quelque chose là-dessous que cela ne m'étonnerait point.
Félion. Un homme d'honneur, pur, sans tache.
Poiré.
Et ce Dutoc ?
Félion.
Monsieur Poiré, vous pensez ce que je pense sur Dutoc. Ne me comprenez-vous pas ?
Poiré, en donnant 2 ou 3 petits coups de tête, répond d'un air fin.
Oui.
Tous les employés rentrent.
Fleury. En voilà une sévère et après avoir lu, je ne le crois pas encore. Monsieur Rabourdin, le roi des hommes. Ma foi, s'il y a des espions parmi ces hommes-là, c'est à dégoûter de la vertu. Je mettais Rabourdin dans les héros de Plutarque.
Vimeux. Oh, c'est vrai. Poiret songeant qu'il n'a plus que 5 jours. Mais messieurs, que dites-vous de celui qui a dérobé le travail, qui a guetté monsieur Rabourdin?
Dutoc s'en va.
Fleury. C'est un Judas Iscariote. Qui est-ce?
Félion, finement.
Il n'est certes pas parmi nous.
Vimeux, illuminé.
C'est Dutoc.
Félion.
Je n'en ai point vu la preuve, monsieur. Pendant que vous étiez absent, ce jeune homme, monsieur Delaroche, a failli mourir.
Tenez, voyez ses larmes sur mon bureau.
Poiré.
Nous l'avons tenu dans nos bras évanoui. Et la clé de mon domicile, tiens, tiens, il l'a toujours dans le dos.
Poiré sort.
Vimeux.
Le ministre n'a pas voulu travailler avec Rabourdin aujourd'hui, et monsieur Saillard, à qui le chef du personnel a dit 2 mots, est venu prévenir monsieur Baudoyer de faire une demande pour la croix de la Légion d'honneur. Il y en a une pour le jour de l'an accordée à la division, et elle est donnée à monsieur Baudoyer. Est-ce clair?
Monsieur Rabourdin est sacrifié par ceux-là même qui l'emploient, voilà ce que dit Bissiou.
Nous étions tous supprimés, excepté Félion et Sébastien.
Dubruel arrivant.
Eh bien, messieurs, est-ce vrai?
Tuilier.
De la dernière exactitude.
Dubruel remettant son chapeau.
Adieu, messieurs.
Il sort.
Tuilier.
Il ne s'amuse pas dans les feux de fil, le vaudevilliste. Il va chez le duc de Rhétoré, chez le duc de Maufrigneuse. Mais il peut courir. C'est, dit-on, Colville qui sera notre chef.
Félion.
Il avait pourtant l'air d'aimer monsieur Rabourdin.
Poiré rentrant.
J'ai eu toutes les peines du monde à avoir la clé de mon domicile. Ce petit fond en larmes et monsieur Rabourdin a disparu complètement.
Dutoc et Bissiou rentrent.
Bissiou.
Eh bien, messieurs, il se passe d'étranges choses dans votre bureau.
Dubruel.
Il regarde dans le cabinet.
Parti.
Tuilier.
En course.
Bissiou.
Et Rabourdin?
Fleury.
Fondu, distillé, fumé. Dire qu'un homme, le roi des hommes.
Poiré à Dutoc.
Dans sa douleur, monsieur Dutoc, le petit Sébastien vous accuse d'avoir pris le travail il y a 10 jours.
Bissiou, en regardant Dutoc.
Il faut vous laver de ce reproche, mon cher.
Tous les employés contemplent fixement Dutoc.
Dutoc.
Où est-il, ce petit aspic qui le copiait?
Bissiou.
Comment savez-vous qu'il le copiait?
Mon cher, il n'y a que le diamant qui puisse polir le diamant.
Dutoc sort.
Poiré.
Écoutez, monsieur Bissiou, je n'ai plus que 5 jours et demi à rester dans les bureaux et je voudrais une fois, une seule fois, avoir le plaisir de vous comprendre. Faites-moi l'honneur de m'expliquer en quoi le diamant est utile dans cette circonstance.
Bissiou.
Cela veut dire, papa, car je veux bien une fois descendre jusqu'à vous, que, de même que le diamant peut seul user le diamant, de même, il n'y a qu'un curieux qui puisse vaincre son semblable.
Fleury.
Curieux est mis ici pour espion.
Poiré.
Je ne comprends pas.
Bissiou.
Eh bien, ce sera pour une autre fois.